À l'occasion des 26e journées nationales de prévention du suicide, le 5 février, nous sommes en ligne avec Geneviève Roque-Darrois, présidente de Prévention Suicide de Midi-Pyrénées. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous allons mettre le focus ce matin sur le suicide des jeunes en particulier. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, indiquait en effet dans une étude publiée le 9 novembre dernier que la santé mentale de ces derniers s'est particulièrement dégradée depuis l'apparition du coronavirus. Avant la crise sanitaire, 15% des jeunes présentaient des signes de souffrance ou de mal-être. Ils sont le double aujourd'hui. Geneviève Roque-Darrois, cette tendance ne se résume pas aux seuls étudiants. Les plus jeunes aussi ont eu des pensées suicidaires allant jusqu'à la tentative de suicide. Dans quelle proportion ?
Alors c'est un constat depuis quelques années, effectivement, la souffrance psychique des jeunes commence de plus en plus tôt. Voilà, donc là maintenant dès 8-10 ans, on constate chez des enfants des signes de souffrance, voire même des conduites suicidaires. Alors on parle d'équivalent suicidaire, hein, bien sûr, parce que les enfants de cet âge-là n'expriment pas d'idées suicidaires directement ou des intentions, mais ils ont des comportements à risque qui les mettent en danger. Voilà, et c'est très inquiétant. Voilà, il y a aussi une recrudescence des troubles du comportement alimentaire chez les préadolescents.
Hein, donc 10, anorexie, 10, 11 boulimie. Ans.
Pardon ?
Anorexie, boulimie.
Oui, voilà. Anorexie, boulimie avec des vomissements. Donc voilà, des troubles quand même qui mettent aussi la santé en danger et qui sont préoccupants.
Vous m'indiquiez que 9 à 14% des 11-17 ans ont été admis aux urgences en 2020-2021. C'est effectivement un chiffre très, très parlant.
Alors effectivement, ouais, depuis les années 90, les taux de suicide ont beaucoup baissé en France, dans toutes les tranches d'âge. Alors ce n'est pas chez les jeunes, hein, qu'on trouve les taux de suicide les plus élevés, mais c'est quand même le suicide la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans.
Donc, après les accidents de la route.
Voilà, après les accidents de la route, sachant que dans les accidents de la route, il y a parfois des équivalents suicidaires. Hein. Les chiffres sont à prendre avec précaution, ils sont sous-estimés parce qu'on ne prend en compte que les suicides déclarés et prouvés, hein, ce qui évidemment en élimine un certain nombre.
Oui, bien sûr. Nous imaginons aisément les raisons d'une telle augmentation, hein, les confinements successifs, la limitation des interactions sociales, l'enseignement à distance aussi. Quelles mesures ont récemment été prises pour freiner cette hémorragie ?
Alors, les mesures les plus récentes sont le remboursement d'un forfait de 10 séances chez un psychologue. Voilà, ce qui permet l'accès plus facile aux soins, hein, pour des jeunes qui seraient en difficulté et pour lesquels le coût d'une prise en charge psychologique pourrait être rédhibitoire. Voilà, donc ça a été expérimental dans la Haute-Garonne et ça s'étend maintenant dans toute la France, puisqu'on se rend compte que ça permet, ça facilite un accès aux soins. Et du coup, alors évidemment, le forfait de 10 séances est remboursé, mais rien n'empêche les personnes de continuer après s'il y a besoin effectivement d'une prise en charge au plus long cours.
Voilà. Une autre mesure qui a été récemment mise en place pour freiner
Septembre 2021, plus exactement depuis le 10 septembre, qui est la journée mondiale du suicide, a été mis en service un numéro national gratuit qui est dédié à la souffrance et à la prévention du suicide. Donc ce numéro national s'adresse aux personnes en souffrance psychique, mais aussi à leur entourage inquiet et démuni, aux personnes endeuillées par suicide et aussi aux professionnels qui sont en quête de conseils et d'orientation pour les personnes qu'ils ont en charge. Ce numéro donc représente une écoute professionnelle et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous pouvez nous le donner, ce numéro ?
Et c'est le 3114. Voilà, il est accessible pour tout le monde.
Vous êtes chargée, Geneviève Roque-Darrois, de la prévention du suicide. Quels sont les signes qui doivent alerter ?
Alors, en particulier chez les jeunes, hein, de façon générale, les signes d'alerte sont surtout un changement brutal de comportement ou d'habitude de vie. Donc, chez les jeunes, c'est surtout un comportement de rupture, c'est-à-dire, par exemple, des fugues, des scarifications, la consommation d'alcool ou de drogue, mais au point où le jeune se retrouve dans un état qui le met en danger. Le repli sur soi, l'arrêt d'activités qui étaient fortement investies, hein, comme des activités culturelles, artistiques ou sportives. Voilà, en tout cas, un comportement qui témoigne d'une rupture avec des habitudes de vie. Mmh. Sachant qu'on trouve donc des comportements différents chez les garçons et les filles. Les filles sont plutôt dans des comportements d'auto-agressivité, c'est-à-dire d'une agressivité retournée contre elles-mêmes et contre leur corps, donc les scarifications, les troubles du comportement alimentaire, alors que les garçons adoptent plutôt des attitudes hétéro-agressives, c'est-à-dire tournées vers l'extérieur, vers les autres, où ils utilisent leur corps plutôt dans des actes donc de antisociaux, des bagarres, des tags sur donc les des choses interdites, ou en tout cas ils vont braver la loi sociale.
Outre tous ces phénomènes de rupture, ces conduites de rupture qui peuvent alerter, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui augmentent le passage à l'acte suicidaire?
Tout à fait. Alors, effectivement, c'est important de les connaître pour être plus attentif, hein, auprès des jeunes qui présentent ces facteurs de risque. Donc, il a été question justement hier dans la journée des liens.
Vous pouvez rappeler quelle était cette journée?
Alors, la journée d'hier, c'était une journée régionale de prévention du suicide Occitanie, qui s'est passée donc à Toulouse, à l'hôtel de région donc de Toulouse, et qui vient en écho chaque année avec la journée nationale, donc qui on s'aligne sur le même thème. Et cette journée nationale se décline sous différentes formes dans toutes les régions en France. Et cette année, le thème était « Diversifier, coopérer, concerter, comment poursuivre ensemble ?» Donc, vous voyez l'accent mis sur la concertation et la coopération d'actions de différents acteurs à différents niveaux. Mmh.
Donc, vous avez constaté pendant cette journée qu'il y avait des facteurs de risque qui augmentaient le passage à l'acte suicidaire ?
Tout à fait, qui le favorisent en tout cas. Et donc, on s'est intéressé aux liens d'attachement précoce. Donc c'est des recherches en psychologie, hein, qui ont été menées par des thérapeutes anglais il y a déjà plusieurs années et qui mettent en évidence que plus les liens d'attachement précoces sont insécures, plus ça va définir une difficulté pour le futur adulte, donc pour le jeune et donc l'adulte quelques années plus tard, dans sa capacité d'investissement dans des relations avec les autres. Voilà, donc ça c'est important parce que ça définit, alors je pense en particulier à des enfants dans des familles très perturbées ou avec des multiples séparations ou des parents qui sont eux-mêmes très en difficulté et qui ne sont pas en capacité de donner à leur enfant un sentiment de sécurité de base suffisant. Voilà, on trouve aussi dans les facteurs de risque des traumatismes vécus dans l'enfance, donc notamment des abus sexuels ou une vie très, très chaotique, un environnement très agressif, hein, voire violent, des conflits familiaux. Voilà, le fait d'être un garçon aussi, c'est considéré comme un facteur de risque puisque...
Oui, parce qu'il y a un plus grand taux de suicide chez les hommes que chez les femmes.
Voilà, et y compris chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles, alors que c'est l'inverse pour les tentatives de suicide. Hein, on trouve une très forte proportion chez les femmes et chez les filles, beaucoup plus que chez les garçons. Un autre facteur
Est-ce qu'à l'inverse,
risque,
pardon, oui, un
oui.
dernier, oui.
Voilà, je continue, donc c'est l'échec scolaire. En tout cas, le fait de se sentir en échec, en difficulté et en situation d'exclusion par rapport aux autres, puisque les enfants et les ados sont très en recherche d'un sentiment d'appartenance au groupe. Donc toute situation qui les met en position
à l'écart.
Voilà, d'exclusion, c'est une souffrance très importante pour eux.
Donc, idem pour harcèlement, évidemment.
La rupture amoureuse, voilà, les situations de harcèlement, bien sûr. La rupture des liens sociaux, donc de façon plus générale, donc les conflits, les déménagements fréquents. L'antécédent de tentative de suicide également. Hein, on considère qu'un jeune qui a déjà fait deux tentatives de suicide, aussi minime et anodine soit-elle, va continuer et la gravité des passages à l'acte va s'accentuer. Voilà, donc c'est vraiment à prendre très au sérieux toute tentative de suicide. Et voilà, un autre facteur de risque, donc tout ce qui est de l'ordre du problème de santé, voire même du handicap, qui, là encore une fois, le met en position de différence et d'exclusion. Et tout ce qu'on considère comme étant des troubles psychiques, voire même des pathologies, donc là je pense en particulier à la schizophrénie, pour laquelle le passage à l'acte suicidaire est souvent l'acte inaugural d'entrée dans la maladie. Hein, voilà, donc vers 19-20 ans, la plupart des jeunes qui font une tentative de suicide à cet âge-là, surtout si c'est leur première, parfois... alors, non pas déclare la maladie, mais c'est le signe révélateur d'une pathologie qui était latente jusqu'à présent. Oui.
Alors, si on repère tous ces signes, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors déjà, si on repère une situation de souffrance chez l'enfant, c'est important de l'aider à verbaliser cette souffrance. Hein, puisque l'enfant ou l'ado va plutôt mettre cette souffrance en acte de par son comportement corporel ou son comportement social. Donc c'est très important de pouvoir lui reconnaître qu'il est en souffrance et en difficulté et de pouvoir le verbaliser, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir accès à la parole.
On pose quel type de questions?
On pose directement des questions de savoir est-ce que, alors évidemment les questions ne seront pas les mêmes que pour les adultes, mais on va demander aux jeunes s'il se sent mal dans son corps, s'il est triste, s'il se sent malheureux, s'il se sent rejeté, exclu. Voilà, l'aider à dire avec ses mots à lui ce qu'il vit. Voilà, donc ça, c'est très important d'être à l'écoute de ce qu'il va pouvoir dire et de pouvoir interpréter que dans son langage à lui, il va parler d'une souffrance. Alors, chez les ados, c'est tout le registre effectivement de la rupture, donc c'est l'envie de se casser, donc de partir, l'envie de se couper, c'est-à-dire de se faire des scarifications. Voilà, ça témoigne, ce langage-là témoigne effectivement de ce désir de rupture, surtout avec cette souffrance psychique éprouvée qui va l'envahir à un moment donné au point où il va se sentir débordé et où le passage à l'acte est moins un désir profond de mourir qu'un désir d'échapper à cette souffrance et à cette situation qui devient intenable.
Donc ne pas laisser le jeune tout seul, prendre en compte sa souffrance et lui poser des questions. 30 voilà. Dernières secondes, Geneviève Roque-Darrois, sur les groupes de parole. Pierre Thomas, professeur de psychiatrie à Lille, indique que l'on considère qu'un suicide endeuille en moyenne 7 proches et impacte plus de 20 personnes. Quelles aides dans notre région sont proposées pour accompagner les personnes ébranlées par le suicide d'un proche? Très, très rapidement.
Alors, on parle d'ondes de choc, effectivement, psychologiques, c'est-à-dire que le suicide d'un proche vient directement ébranler la personne dans son rapport à la vie et à la mort et dans ses relations affectives. Donc, c'est effectivement très important de pouvoir proposer soit une prise en charge individuelle des personnes qui ont vécu ce drame, soit une prise en charge groupale sous forme de groupe de parole. Donc, il en existe à Toulouse pour les enfants. Des groupes de parole pour des enfants qui sont organisés par le service de pédopsychiatrie en collaboration avec l'association ASP Et pour les adultes, donc, il existe un groupe de parole spécifique de prise en charge de personnes endeuillées par suicide qui leur permet de pouvoir traverser et dépasser leurs sentiments de honte, de culpabilité, d'impuissance, de désespoir et de,
oui, c'est
et
important
de pouvoir donc
de
réinvestir
parler.
Leur propre vie en faisant leur travail
Merci.
De deuil.
Merci beaucoup. Pardon pour ce temps qui s'écoule trop vite. Merci Geneviève Roque-Darrois d'avoir attiré notre vigilance quant au suicide des jeunes.
Merci à vous de pouvoir mettre le focus sur cette problématique.